Bonjour à tous et à toutes. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous connaissez certainement ce verset, et vous le connaissez peut-être même plus aujourd'hui parce que nous l'avons déjà partagé, et vous l'entendrez certainement encore. Il renferme notre mot d'ordre pour cette année qui vient, ouvrier avec Dieu. Et si vous connaissez ce verset, vous en connaîtrez le livre, le chapitre et le numéro, 1 Corinthiens 3, verset 9. Et je crois qu'au fur et à mesure, on le connaîtra par cœur. Ce mot d'ordre vient donc des paroles de l'apôtre Paul, écrites aux frères de l'église de Corinthe. Et nous croyons que nous sommes appelés à œuvrer pour la gloire de Dieu. Dans ce sens, Dieu a donné à chacun de ses enfants des dons, afin de les mettre au service les uns des autres, chacun pour sa part, et selon la force que Dieu nous communique. Mais si je considère simplement ce mot « ouvrier » avec Dieu, je me rends compte qu'il n'est pas forcément évident de voir ce mot dans le service. Il n'est pas évident de servir. Est-ce que c'est évident de considérer le service ? Cela provoque chez chacun d'entre nous forcément un questionnement. Et ça nous interpelle personnellement et individuellement. Au moment où donc nous considérons le service cette année, je voudrais me pencher ce matin sur deux questions. Deux questions qui me semblent importantes. À quoi aspirons-nous ? Et la deuxième, si nous aspirons à quelque chose, sur quel fondement repose alors notre service ? Et je vous invite pour cela à ouvrir vos Bibles et nous allons lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 20, des versets 25 à 28. Évangile selon Matthieu, chapitre 20. Versets 25 à 28. Alors Jésus appela ses disciples auprès de lui et leur dit : Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur les peuples et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Cet enseignement de Jésus pour ses disciples, vous le voyez dans ces quelques versets, est extrêmement fort et extrêmement puissant. Et il ne peut que interpeller ses disciples et il ne peut que nous interpeller nous aussi aujourd'hui. Le passage que nous venons de lire se trouve donc dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, vous le connaissez, c'est ce collecteur d'impôts de métier, un des 12 disciples que Jésus appela à le suivre. Matthieu est d'origine juive. Et dans son évangile, Matthieu a ce souci de montrer que Jésus est le roi qui devait venir. C'est lui qui, dès le début de son évangile, dresse le tableau de la généalogie de Jésus, comme il dit au verset premier du premier chapitre, « Jésus, fils de David, fils d'Abraham ». Il appelle souvent Jésus d'ailleurs « fils de David ». Et Matthieu s'attache à montrer que Jésus est le Messie qui devait venir et qu'il a à ce titre accompli les prophéties annoncées. Cet évangile permet donc de considérer avec force que ce qui a été annoncé par les prophètes dans l'ancienne alliance a été accompli aujourd'hui en Jésus-Christ. Et le passage que je viens de vous lire a pour sa part, lui se situe à un moment donné précis de la vie de Jésus. Plus précisément, à la fin de son ministère terrestre. Le moment de sa mort et de sa résurrection est proche. Jésus et ses disciples sont donc en chemin pour monter à Jérusalem. Ils sont tout proches de Jéricho, peut-être même à Jéricho même à ce moment-là. Et c'est à Jérusalem qu'il sera mis à mort. Jésus sait que le moment de sa mort est imminente et il prend à ce moment-là ses disciples auprès de lui pour leur dire ce qui devait arriver. Ce n'est pas la première fois, il leur révèle au moins pour la troisième fois, avant notre passage, sa mort et sa résurrection. Et il nous est dit en Luc chapitre 18, verset 34, que les disciples ne comprenaient pas ce que Jésus disait. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Les disciples entendaient bien que Jésus parlait de mort et de résurrection, bien évidemment. Mais c'était pour eux un langage caché dans le sens où ils n'étaient pas prêts à croire ni à admettre que Jésus, leur maître, était venu pour mourir et non pas pour régner. Et donc, ils ne mesuraient pas pleinement à ce moment-là encore la signification de la venue de Jésus. Il y a donc ici, à ce moment-là, quand ils sont en train de monter à Jérusalem, un décalage entre les paroles de Jésus et le cœur des disciples, c'est-à-dire leur disposition à considérer les paroles de Jésus à ce moment-là. Et c'est précisément à ce moment-là que se dessine dans le cœur des fils de Zébédée, les fils de Zébédée c'est Jacques et Jean, cette demande qui va être témoignée par leur mère à Jésus. Ils vont leur dire, ils vont lui dire, en s'approchant de Jésus, ils vont lui faire une demande. Et Jésus va dire à la mère des fils de Zébédée, mais que veux-tu ? Et elle va dire, ordonne que mes deux fils qui sont là, les deux disciples, Jacques et Jean, que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Les fils de Zébédée demandent une position élevée dans le règne de Dieu. Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Eux ne comprennent pas pleinement de quoi parle Jésus. Et ils regardent plutôt à la position qu'ils pourraient avoir dans son règne. Que l'un soit à la droite et l'autre à la gauche de Jésus. Alors c'est pas une aspiration mauvaise en soi, dans le sens où ils aspirent à être auprès du Seigneur, le plus proche possible. Mais ce qui ressort ici de cette demande, c'est le sentiment de leur cœur à ce moment-là. Et ce qui est révélé à ce moment-là, c'est plutôt un sentiment d'ambition personnelle. Il nous est dit d'ailleurs au verset 24 que les 10 autres disciples, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus donc voit à la fois cette demande des deux disciples et en même temps il voit l'indignation des 10 autres. Alors il va appeler tous les disciples auprès de lui. Il va les appeler auprès de lui pour leur donner un enseignement profond. Un enseignement qui est rempli d'humilité. Et donc il va leur donner un enseignement pour prendre le bon sens, pour être animé du bon esprit dans leur vie personnelle. Jésus appelle donc ses disciples et va les enseigner sur ce qui doit faire autorité dans leur vie, ce qui doit vraiment faire autorité dans leur vie. Et pour mieux leur faire comprendre ce vers quoi ils doivent regarder, Jésus va, comme il sait bien le faire, utiliser un contraste saisissant. Il va marquer un contraste entre l'esprit qui dirige le monde et l'esprit qui doit animer les serviteurs de Dieu. Alors Jésus prend un exemple très marquant et certainement très parlant pour l'époque. Il parle des chefs des nations et des grands de ce monde vis-à-vis de leur peuple et de leur comportement. Jésus dit, vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Ici, Jésus nous parle d'un premier ensemble de personnes. Il parle des nations, du monde dans lequel ils vivent. Et celui-ci est régi par des personnes qui ont une place prééminente. Et certainement des personnes qui ont recherché même cette place prééminente. Les chefs et ceux qui ont du pouvoir sont souvent ceux aussi qui ont recherché cette place, qui ont aspiré à cette place. Il les nomme les chefs et les grands, en d'autres termes, les souverains et ceux qui ont du pouvoir. Et ceux qui ont du pouvoir, eh bien souvent, ils dominent, ou ils font peser sur les autres leur autorité, leur puissance. Les termes grecs, d'ailleurs, dans le passage, sont plus forts, et ils traduisent le sens de « ils oppriment », « ils tyrannisent », « ils abusent de leur autorité », et même « ils asservissent ». Cela, c'est presque la nature qui régit ce monde, ou plutôt le sens que donnent les puissants à leur autorité. Le monde dans lequel nous vivons marche souvent selon cette règle, avoir du pouvoir pour pouvoir dominer. C'est une réalité, c'est un constat du monde. Alors est-ce que les disciples de Jésus veulent-ils faire comme le monde? Est-ce qu'ils veulent surpasser les autres en prestige et en grandeur en vue de dominer? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent une place à la droite et à la gauche de Jésus pour être les meilleurs, pour être à la meilleure place? C'est vrai que nous pouvons, nous aussi, facilement tomber dans le même écueil. Nous sommes aussi dans le monde et les valeurs de ce monde pèsent sur nous et déteignent souvent, très facilement, sur notre manière de voir les choses et d'agir. En tant que chrétiens, nous pouvons aussi utiliser la même manière de penser et même les mêmes règles. Chercher constamment une position élevée. Chercher une position élevée non pas pour diriger, mais pour dominer, pour faire peser sur les autres peut-être notre autorité, pour être vu, pour être considéré. Le mot tyrannique dans ce passage est intéressant. Il nous est dit que les chefs les tyrannisent. Et le mot tyrannique, la traduction, c'est amener sous son pouvoir quelqu'un. C'est amener sous son pouvoir. C'est encore tenir en soumission quelqu'un. C'est intéressant le mot tyrannique. C'est être le maître de quelqu'un, se rendre le maître de quelqu'un. Il y a, dans le sens de tyrannique, pas que tyranniser les gens, les faire souffrir, mais il y a un sens de vouloir contrôler et d'avoir du pouvoir sur les autres. Le problème ici, je ne crois pas, n'est pas le sens de diriger. Je ne crois pas que Jésus soit contre le fait de diriger. Il y a des gens qui, dans le monde, sont faits pour diriger. Il y a des gens qui sont faits pour créer. Il y a des gens qui sont faits pour mettre ensemble des personnes, pour qu'ils puissent travailler, créer, produire. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Il souligne plutôt ici le sentiment d'orgueil qui anime souvent ces chefs qui ont du pouvoir et qui a pour effet de faire peser sur les autres une domination tyrannique. Il semble qu'il y ait à ce moment-là, en tout cas, dans le cœur des disciples, une volonté de savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Lequel d'entre eux, comme il est dit dans la parole, pouvait s'estimer le plus grand. Lequel d'entre eux pouvait s'estimer le plus grand? C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 24. C'est ce sentiment, cette aspiration personnelle de grandeur dans le cœur des disciples qui peut avoir des effets dévastateurs que Jésus souligne dans cet exemple. Pour les serviteurs de Christ, Jésus dit « qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous ». Il ne peut pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Jésus donne ici l'exemple de celui qui est appelé à le suivre. Celui qui suit Jésus ne peut se conformer à la manière du monde ou à cette espèce d'aspiration qui se trouve très facilement dans le monde. Être élevé pour avoir du pouvoir et pour dominer sur les autres. Ce qui est intéressant ici, c'est encore une fois l'ensemble de personnes. Jésus a parlé tout à l'heure des nations, cet ensemble de personnes qui désigne celles qui vivent selon une certaine règle. Jésus parle maintenant en disant « au milieu de vous » ou « parmi vous » comme un deuxième ensemble. Si le monde dans lequel ils vivent et régit souvent par des règles et des pensées autoritaires, il ne peut en être ainsi parmi eux. Les disciples ont été appelés à suivre Jésus et ont persévéré avec lui dans ses souffrances. Jésus dispose du royaume en leur faveur. Jésus dispose déjà du royaume en leur faveur. C'est lui qui le dit, en Luc chapitre 22, verset 29. Les disciples vivent dans le monde, mais ils ne peuvent se conformer à la manière d'agir du monde à cause de Christ. Ce qui doit faire autorité dans leur vie, c'est la loi de Christ. La loi de Christ, c'est une loi parfaite. C'est une loi de liberté. Et ce n'est pas une loi d'asservissement. Ce n'est en tout cas pas une loi pour dominer les autres. Paul dira aux Galates, au chapitre 6, au verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » La loi de Christ, vous voyez, ce n'est en aucune manière aspirer à être à la meilleure place en vue de dominer les autres. Mais au contraire, c'est de savoir porter les fardeaux les uns des autres. C'est tout le contraire. Et c'est cet esprit-là qui doit animer la vie des disciples. Et c'est celle qu'ils vont découvrir et c'est celle à laquelle ils vont s'attacher. Et c'est au milieu d'eux d'ailleurs, c'est du milieu d'eux même que l'Église va naître. Et celle-ci ne peut pas être régie à la manière du monde par des ambitions personnelles, par des aspirations personnelles, par des envies de grandeur ou de domination, quelles qu'elles soient. Elle ne peut être dirigée que par l'autorité de Christ, dont nous en sommes les simples serviteurs. Jésus exhorte les disciples à ne pas rechercher une position élevée en vue de dominer, à chercher une position haute au détriment d'autrui et à faire peser sur les frères une certaine autorité. En tout cas, ce n'est pas de cette manière-là, dans cette manière qui est facile, qu'ils doivent regarder, mais plutôt à la grandeur selon Dieu. Et la grandeur selon Dieu, elle ne consiste pas à la manière d'agir du monde. La grandeur selon Dieu, elle consiste en toute autre chose. Elle consiste non pas à dominer ou à vouloir dominer, mais elle consiste à servir. Et je crois que Jésus, il a cette capacité à renverser complètement notre perspective, notre vision des choses, et à mettre donc devant nous le bon sens pour notre vie. Et Jésus va donner deux exemples pour montrer le bon sens. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, si vous cherchez quelque grandeur parmi vous, soyez alors le serviteur de l'autre. Serviteur, c'est diakonos en grec, vous le savez, on l'avait déjà vu. C'est celui qui exécute le commandement d'un autre, en particulier d'un maître. Donc c'est pas celui qui est lui-même le maître, mais c'est celui qui exécute le service pour un maître. Dans l'Église, c'est de diakonos que viendra le terme de diacre, celui qui est assigné par l'Église à une charge pour le bien des frères. Le plus grand, selon Dieu, le plus grand, c'est celui qui sert au milieu des autres. Vouloir être grand en Dieu, c'est donc l'inverse de ce qu'on pourrait estimer nous-mêmes. Ce n'est pas rechercher une position élevée pour dominer sur les autres, mais c'est au contraire s'abaisser. C'est au contraire descendre, et non pas se placer sous notre propre autorité ou rechercher notre propre ambition, mais c'est au contraire se placer sous l'autorité de Dieu en Jésus-Christ. Et donc laisser l'Esprit de Dieu agir en nous pour nous enseigner dans la vérité et donc servir comme Dieu veut que nous servions. Si on s'abaisse, si on descend, si on se met à disposition, alors on se place sous l'autorité de Dieu et non plus sous la nôtre. Et ça fait toute la différence. On se met dans le sens de Dieu pour nos vies. Jésus va plus loin, il dit « Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Alors ces paroles sont fortes, qu'il soit votre esclave, qu'il soit votre doulos en grec. Un homme de condition servile, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de condition. Celui qui se donne ou qui se vend à un autre. Celui dont le service est utilisé, on utilise un esclave pour ce qu'il est utile, c'est-à-dire pour accomplir une tâche. Celui qui est dévoué à un autre, et là j'aime beaucoup ce sens de l'esclave, sans se soucier de ses propres intérêts. Et ça rajoute encore un sens supplémentaire au service. Servir sans se soucier de son propre intérêt, sans rechercher ses propres ambitions, mais plutôt en recherchant l'intérêt des autres. Et je crois qu'il y a un sens vraiment profond dans le service à considérer à chaque fois. Servir pour la gloire de Dieu, sans se soucier de son propre intérêt, c'est-à-dire peut-être d'une ambition propre ou de quelque aspiration personnelle, mais pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu. Et les mots serviteur ici et esclave viennent en opposition à ce sens un petit peu d'autorité tyrannique qui existe dans le monde ou d'ambition personnelle qui est dans le monde, cette sorte de sens tout à fait humain qui est souvent tourné pour soi-même, qui est souvent fait pour soi-même et qui est animé par un esprit de toute puissance, de recherche de puissance. Le service selon Dieu et pour les autres, en vue de leur venir en aide et leur faire du bien. Et ce service revêt une caractéristique toute particulière, c'est l'humilité. Pour servir, il y a une nécessité d'humilité, une nécessité de s'abaisser. En Luc chapitre 22, verset 26, Jésus dira à ses disciples, en réponse à leur question pour savoir qui était le plus grand parmi eux, justement. Il leur dit, « Eh bien, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et que celui qui gouverne parmi vous soit comme celui qui sert. » Servir avec humilité. Voilà ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà ce qui doit avoir de la valeur à nos yeux. S'il y a une grandeur que nous devons rechercher dans nos vies chrétiennes, elle est là. Elle se trouve dans un service désintéressé, avec humilité et fondé dans l'amour. Et quel est l'exemple même du service dans l'humilité? Quel est l'exemple même qui doit faire considérer ce sens dans nos vies? Eh bien, c'est Jésus. Jésus, il est l'exemple même du service dans l'humilité. Et d'ailleurs, Jésus va fonder ce sens en lui-même. Il va dire à ses disciples, au verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Il est venu non pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus, le Fils de l'homme, est l'exemple même que les disciples doivent considérer. Eux qui ont suivi le Christ, eux qui ont pris part à ses souffrances, comme il le dira, ils doivent considérer l'exemple que Jésus leur a laissé. Le sens même de l'œuvre de Jésus sur la terre se trouve dans ce verset 28. Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans le monde comme le plus petit d'entre tous, pour servir et donner sa vie en rançon pour nous. Voilà un sens profond du ministère de Jésus. Jésus a donné l'exemple à suivre. Sa vie entière fut consacrée au service, et il alla jusqu'au sacrifice de sa vie pour nous. Jésus, que les disciples appelaient Seigneur et Maître, est venu en tant que serviteur. Jésus, qu'ils appelaient Seigneur et Maître, est venu en tant que serviteur. À plus forte raison, ils doivent s'animer du même esprit. Jésus dira à ses disciples, lorsqu'il venait de leur laver les pieds, il leur dira en Jean 13, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les fassiez. » Jésus venait de laver les pieds de ses disciples en utilisant ses propres vêtements. Et au travers de cet exemple, Jésus voulait que les disciples appliquent le même sens dans leur vie. Ils seraient heureux en appliquant, en mettant ce même esprit dans leur vie. Jésus venait de leur donner, dans ce cas, un exemple de profonde humilité et d'amour. Ici, Jésus enseigne donc en acte, dans Jean 13, ce qu'il enseigne en parole dans le passage que nous avons lu tout à l'heure. C'est l'exemple même de l'humilité et de l'amour qui doit régner parmi eux, au milieu d'eux. Servir avec humilité. Et ce sens qui doit régner au milieu d'eux est loin d'être à l'image de ce qui peut régner dans le monde, de ce qui peut faire autorité dans le monde. Ce qui doit faire autorité dans leur vie et dans notre vie, c'est un service dans l'humilité. Un service dans l'amour, à l'image de Jésus-Christ le Seigneur qui est notre Maître. Alors ce passage est très riche. Ce passage est très riche et y revêt même bien d'autres choses. Et ce matin, je n'ai pas la prétention de pouvoir aborder toute la richesse de ce passage. Mais il y a deux choses sur lesquelles je voudrais m'arrêter. C'est ces deux questions que je vous ai données ce matin en préambule. La première chose, c'est à quoi aspirons-nous ? Ici, ce qui me frappe, c'est cette pensée des disciples de rechercher finalement, on ne sait pas trop quoi, mais peut-être un intérêt propre, une place élevée au détriment des autres, qui en tout cas est suffisamment intrigante pour créer une certaine incompréhension, pour ne pas dire plus, dans le cœur des autres disciples. Et je crois que là, il y a une notion à prendre garde. Au moment d'aborder le service, au moment où nous devons considérer peut-être notre propre engagement dans notre vie, nous pouvons nous poser cette question, qu'est-ce qui fait autorité dans ma vie ? Est-ce mes aspirations personnelles ? Est-ce mon ambition personnelle ? Est-ce la recherche d'une place élevée ? Ou est-ce simplement l'Église ? Servir simplement ? Est-ce le bien de mes frères et sœurs ? Est-ce simplement œuvrer pour la gloire de Dieu ? Et je crois qu'il y a matière à réflexion et matière à porter devant le Seigneur. Avant de rechercher quel service je pourrais faire dans l'Église, la première chose que nous devons rechercher, c'est la disposition de cœur et d'esprit. C'est donc nous mettre à disposition pour que nous puissions être dans le bon sens au moment où nous aurons à réfléchir au service. Nous sommes toujours face à ce danger de laisser grandir en nous des pensées qui ne sont pas de Dieu. Ce danger peut venir de notre orgueil, de bien d'autres choses, de mauvaises pensées qui sont dans notre cœur et qui nous empêchent de considérer le bon sens pour nos vies. Et on peut parfois perdre de vue le bon sens, la bonne direction que le Seigneur nous invite à prendre. Comment servir s'il y a quelque aspiration, quelque ambition personnelle, si dans notre vie il y a des choses qui prennent une telle place importante qui nous empêchent de voir le sens de Dieu ? Je crois que nous devons d'abord réfléchir à cela et remettre tout ce qui peut faire obstacle dans nos vies devant le Seigneur dans la prière, afin qu'il nous donne la force de nous en défaire. Si les disciples de Jésus ont conçu dans leur cœur à un moment donné une volonté de grandeur qui a pris une place importante, qui leur a peut-être empêché de voir ce qui était important au contraire, le risque n'est pas moins élevé pour nous aussi. Je crois que nous ne sommes pas si différents que cela des disciples de Jésus. Avant de nous placer dans le sens du service, nous pouvons donc nous poser cette question : qu'est-ce qui fait autorité dans ma vie ? Qu'est-ce que je veux qui fasse autorité dans ma vie ? Est-ce que je veux que ce soit Jésus qui fasse autorité ? Ou est-ce que je veux que ce soit moi-même, mes propres aspirations, mes propres ambitions, au détriment des autres ? Je crois que nous devons constamment considérer ce que nous avons dans notre cœur et le mettre devant le Seigneur. Comme pour les disciples, je crois que Jésus saura nous montrer avec patience, avec bienveillance, avec autorité, avec clarté, ce dont nous avons besoin de conformer dans notre vie à sa volonté. Et si nous le voulons, et si nous lui demandons, alors je crois qu'il nous mettra dans le bon sens, comme il a appelé les disciples à prendre le bon sens pour leur vie. Je crois que le Seigneur est vraiment tout-puissant pour nous placer dans ce bon sens, pour que règne dans nos cœurs le bon esprit, celui qui est selon le cœur de Dieu. La deuxième chose qui me semble importante ici, et il y en a bien d'autres, c'est le fondement sur lequel doit reposer tout service. Et ma deuxième question ce matin, c'était sur quoi doit reposer mon service ? Sur quoi doit reposer notre service, votre service ? Et vous allez me dire, c'est facile. C'est facile. Le service, tout service doit être fondé sur Jésus-Christ. Tout service doit reposer sur Jésus-Christ. Toute aspiration doit être soumise à notre Seigneur. Mais si évident que ça. Vous savez, que ce soit l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre, souvent ils étaient amenés à répéter les mêmes choses dans les lettres, constamment, à des églises différentes, ou même peut-être aux mêmes églises, y rappeler les mêmes choses. Pourquoi ? Parce que nous avons toujours tendance à oublier. Constamment, nous avons tendance à oublier. Vous savez, dans la vie, nous sommes capables de reconnaître des fois que le Seigneur a agi puissamment dans notre vie, et 3 mois plus tard, nous oublions déjà ce qu'il a accompli. Et nous retombons de la même manière dans nos travers, dans l'incompréhension. Et de la même manière encore, le Seigneur, avec patience, il répond à nos prières. Encore nous reconnaissons ce qu'il a accompli et encore nous oublions. Et donc, il y a souvent une nécessité dans la parole de nous rappeler sur quoi nous devons fonder nos vies. Et je crois qu'il est bon de se rappeler que tout service doit être fondé en Jésus-Christ. Et c'est pas anodin. Parce que Jésus, il est l'exemple même du service. Il a donné au service le sens que Dieu souhaite pour nos vies. Un service rempli d'humilité et tourné vers les autres dans l'amour. Un service désintéressé. Un service que lui-même il a porté jusqu'à la croix, en donnant sa vie pour nous. Et je crois qu'il est primordial de regarder constamment à la source de ce qui doit nous inspirer, de ce qui doit animer notre engagement. Parce que nous sommes constamment entre l'incompréhension, l'incapacité, le découragement. On navigue toujours avec ces notions-là. L'incapacité, je me sens incapable. On navigue toujours avec le regard des autres. On navigue toujours avec l'inconstance, avec le découragement. Mais si on regarde à Jésus, si on fonde notre service en Jésus, alors nous pouvons considérer qu'il a de la valeur, que nous pouvons avoir de la persévérance, que nous pouvons continuer dans notre engagement, que nous ne sommes pas là pour regarder le regard des autres, mais pour soumettre au regard de Christ toute chose. Alors s'il y a quelques services à considérer devant nous, si demain il y a un service qui se présente devant vous, fondons notre engagement en Christ, par Christ et pour Christ. Plaçons notre service dans ce sens donné par le Seigneur, et je crois que nous serons heureux de voir ce que le Seigneur a préparé pour nous. Je peux vous dire que vous serez heureux de voir ce que le Seigneur a préparé pour vous. Et je crois que les disciples de Jésus ont été heureux de voir dans leur ministère ce que Jésus avait préparé pour eux. Là encore, sachez que le Seigneur, si vous vous mettez dans le bon sens, dans le bon esprit, le Seigneur saura vous montrer ce qu'il a préparé pour vous. Le Seigneur saura vous montrer à chacun d'entre vous ce qu'il a préparé pour le service. Amen.